France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Hervé Joubert, Laurent Saint, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'esthétique et d'histoire du cinéma à l'Université Paris-Nanterre. Vous êtes cinéaste et poète. Vous êtes aussi un des grands spécialistes de l'œuvre de Pier Paolo Pasolini, dont vous avez traduit de nombreux textes. Si je vous ai invité aujourd'hui à l'antenne de l'Union rationaliste en ce mois d'octobre, c'est pour entamer avec vous un parcours où nous parviendrions à montrer à quel point la vie et l'œuvre de Pasolini, assassiné par des fascistes il y a 50 ans, est emblématique de quelque chose qui nous tient fort à cœur à l'Union rationaliste et qui est constitutif de notre association, le combat contre le fascisme. Alors, ma première question porte sur sa mort, cette mort écran qui, telle qu'elle a été délibérément, je le crains, rapportée de façon trompeuse, crapuleuse, a fait beaucoup pour salir l'image de l'homme et faire du même coup écran à l'accès à l'œuvre, à sa poésie, à ses écrits, à ses essais, à ses films.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai le même parcours pendant... J'ai travaillé sur Pasolini depuis, ça doit faire 40 ans. Et au début, pendant, je sais pas, 20 ans ou 30 ans, j'ai décidé de ne pas m'occuper de la mort mystérieuse de Pasolini parce que ça faisait écran pour moi à l'accès à l'œuvre, justement. Et puis un jour, quand même, on m'a demandé de travailler là-dessus. Je l'ai fait. Ça se retrouve aujourd'hui augmenté dans le dernier livre que j'ai fait.
Hein, magnifique dernier chapitre.
Voilà, qui essaye de donner toutes les hypothèses possibles, puisque ça fait partie de ces morts non élucidées de l'Italie. Il y en a beaucoup, hein, ce qu'on appelle parfois...
Cold case.
Ouais, cold case, et profondo nero, comme on dit en italien. C'est-à-dire, on est dans le noir profond, d'autant plus qu'il a écrit son dernier roman qu'il n'a pas pu finir à cause de cet assassinat qui s'appelle Pétrole. Donc on est vraiment dans le noir et dans la glu. Et donc, selon moi, effectivement, il n'y a pas d'accès réel à l'œuvre de Pasolini en passant par cette porte. Mmh. C'est une erreur fondamentale de repenser toute l'œuvre de Pasolini avec son assassinat, qui pour moi est un assassinat de pur hasard, et évidemment de hasard au sens dans sa vie, mais pas de pur hasard parce qu'effectivement il y a un assassinat pensé, un scénario, et vous avez raison, aujourd'hui on sait qu'il y a un scénario qui a été fabriqué. Du reste, on l'a su dès 1976, mais on a fini par l'oublier, puis on l'a retrouvé. C'est-à-dire qu'on a envoyé quand même à plusieurs journaux dans la nuit le récit de ce crime, tel qu'il avait été inventé, je dirais, par un scénario que pourrait avoir inventé un catholique intégriste homophobe.
Absolument. Hein.
Et ça a été envoyé à des journaux avant même qu'on découvre son cadavre.
Non.
Si, c'est une chose énorme tout de même qu'on oublie de rappeler, mais qu'on savait, qu'on a entendu en 1976 et qu'on a oublié aujourd'hui. Et donc, il y a bien un guet-apens qui a été fabriqué, et Pasolini a été tué par plusieurs personnes, ce que disait d'ailleurs très clairement le premier jugement en 1976, puis un deuxième jugement en appel, puis en cassation. On se sont arrangés pour faire disparaître la mention « tué avec l'aide d'inconnus ». Donc, on a chargé une seule personne qui était mineure et qui avait été manifestement poussée là, peut-être payée, peut-être... On n'a jamais su, il est mort aujourd'hui et il était vraiment très, 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 très abruti et très, très apeuré. Et donc, toute
Pelosi,
sa vie...
Pino Pelosi.
Giuseppe Pelosi, qui avait 17 ans à l'époque, et qui donc devait faire un peu moins d'années de prison. Il y a dû y avoir un deal, il a prétendu 30 ans plus tard que ce n'était pas lui, dans un scoop télévisé, mais comme on l'avait payé pour le dire à la télévision, ça n'a pas réouvert le procès. Donc le procès se rouvre de temps en temps, mais jamais on a été jusqu'au bout. Et on sait, en tout cas aujourd'hui de façon sûre, que ce n'est pas ce scénario absurde et sale qu'on a voulu faire, c'est-à-dire un homme violent qui payait des mineurs pour prostituer, qui les frappait et qui ensuite aurait trouvé sa punition. Enfin, voilà, donc c'est ça l'idée. On savait que Pasolini n'était pas cet homme. Et là, on sait maintenant de façon certaine qu'il a été emmené dans un lieu et que plusieurs personnes sont venues et l'ont tué dans une des morts les plus horribles qui puissent exister comme des morts de la police ou dans une guerre, c'est-à-dire tués à main nue avec un bâton en finissant par l'achever en roulant dessus avec sa propre voiture. Donc c'est une mort monstrueuse comme une espèce de punition infligée à celui qui ne pensait pas comme il faut au fond. Donc on ne sait pas si ce sont des fascistes, mais ce qui manque en tout cas c'est un acte fasciste dans tous
Bien
les cas.
Sûr.
Mais ce qui manque c'est ce qu'on appelle le mandant. Donc moi je garde espoir, enfin je crois que j'écris ça à la fin
oui,
de mon livre.
Oui, c'est magnifique la phrase.
Je garde cet espoir que un jour dans ma vie, je saurai qui est le mandant, a été le mandant.
Vous voulez vivre jusqu'à ce qu'on connaisse le mandant du meurtre de Pasolini.
J'aimerais bien. À vrai dire, je l'affirme. Je pense que petit à petit, les gens vieillissant, les choses, les dossiers ressortant, on sait déjà beaucoup, beaucoup plus de choses qu'en 1976. Et parce qu'il a tué, il a été tué à la fin de 1975. Et je pense qu'un jour, on ira jusqu'au bout.
Bon, pour ceux que ça intéresse, je fais littéralement référence à ce dernier chapitre du Grand Champ, votre dernier ouvrage sur Pasolini, intitulé « De quoi Pelosi est-il le nom ? L'assassinat de Pier Paolo Pasolini ». C'est à la page 782 du Grand Champ. Ma deuxième question, Hervé Joubert-Laurencin, c'est après avoir évoqué ce craquement d'un corps fracassé, je voudrais que vous nous parliez de l'antifasciste notoire qu'était Pier Paolo Pasolini et comment vous qualifieriez-vous cet antifascisme ?
Avec le craquement d'un corps fracassé, vous faites référence à un poème qui a été écrit après sa mort par un grand ami de Pasolini, par un très, très grand poète, Biagio Marin. Je dirais, pour le qualifier, d'abord, beaucoup d'interventions journalistiques, disons anticorruption, dans de grands journaux. Voilà, c'est une chose qui est très rare, au fond, chez un poète, mais c'était aussi un intellectuel, quelqu'un qui intervenait dans les journaux, y compris dans les grands journaux, y compris pas forcément dans des journaux de gauche, mais avec une place d'écrivain qui lui permettait de dire ce qu'il voulait. Et avant l'opération Main Propre, qui s'est passée après sa mort, c'était déjà des sortes de coups de boutoir contre la corruption du régime démocrate chrétien qui perdurait depuis 1945. On peut dire aussi, alors ça c'est une forme de son antifascisme, l'autre forme peut-être c'est d'écrire des livres, donc Pétrole, son dernier roman inachevé à 600 pages par cause d'assassinat, s'appelle Pétrole parce qu'il a été écrit juste avant 1973, exactement dans la crise du pétrole. Et donc c'est un livre aussi sur le néo-capitalisme, ce que Pasolini appelait facilement le néo-capitalisme, le capitalisme débridé, et qui se retrouve dans les mœurs. Enfin, Pétrole est un roman dostoïevskien, un roman à la Stern, un roman incroyable, d'ailleurs qui va être monté
à l'Odéon, par Sylvain Creusevaux.
Sinon, par ailleurs, il fait des films, c'est par ses films et par toutes ses œuvres littéraires qu'il est politique, parce qu'au fond, Pasolini, c'est toujours politique poétique. C'est toujours, au fond, c'est une relation, l'antifascisme est une relation au monde. Et donc, il avait coutume de dire que tout film est politique. Enfin, lui, il faisait partie des gens qui pensaient qu'on ne fabriquait pas un film politique et d'autres qui ne l'étaient pas. Tout film est politique. Et donc, l'important, c'est la relation au monde et la pensée politique de celui qui le fait ou qui écrit le livre, qui fait le film. Et enfin, je dirais, dernière chose qui caractériserait l'antifascisme de Pasolini, c'est qu'il était seul. Voilà. Il était dans une profonde solitude. Il était sans parti. Voilà. C'est un homme profondément politisé, qui n'a peur absolument de rien quand il parle, mais qui est sans aide, sans parti.
Sans appareil,
sans collectif qui va le défendre, jamais. Et donc ça, eh bien, il l'a payé jusqu'au bout. Il l'a payé jusqu'à sa mort, même si, bien sûr, une fois qu'il était mort, on lui a fait un bel enterrement. Mmh, tout le monde est prêt à faire des enterrements, y compris la droite et l'extrême droite est capable de faire des enterrements à Pasolini aujourd'hui. Mais de son vivant, il était seul, et ça, c'est une forme d'antifascisme très particulière, parce qu'il l'a vécu, on pourra parler peut-être de comment c'est venu, puisque, au fond, c'est depuis son enfance, son adolescence.
Oui, voilà. En fait, ce qui m'intéresse aussi dans cet antifascisme, c'est qu'il y a deux façons de penser le fascisme. Le fascisme historique tel qu'il a pu le connaître avec Mussolini et l'Italie fasciste. Et puis, ce qu'il appelle aussi le fascisme dans cette forme de néo-capitalisme débridé, qu'il trouve peut-être parfois pire que le fascisme mussolinien.
Mmh. C'est vrai. Bah, on peut dire que historiquement, c'est d'abord une révolte. Hein, c'était une prise de conscience d'abord littéraire et poétique qui lui permet de faire une prise de conscience politique plus qu'au fond contre son père. On pourrait simplifier en disant que c'est une forme d'Œdipe. C'est contre son père qui était militaire et officier donc de l'armée fasciste. Mm-hmm. C'est contre son éducation puisque Pasolini est né fasciste puisqu'il est né en 1922. Il a eu tous les uniformes du fascisme puisqu'il est né en même temps que l'arrivée de Mussolini au pouvoir. Donc mm-hmm. il a été balila quand il était à l'école maternelle. Il a été avant-gardiste quand il a été étudiant fasciste forcément. Mm-hmm. Donc il toute sa vie a été fabriquée là. Sauf que il a eu très vite cette intelligence, cette finesse dans l'invention littéraire plus forte que les autres. Et quand il revient, un exemple là que j'ai en mémoire parce qu'on en a parlé récemment, mais il a fait un voyage à Weimar. Mm-hmm. Dans la Weimar nazie. Et à Weimar, il y avait tous les fascismes européens. Peut-être ça va arriver maintenant à des jeunes gens aujourd'hui, hein, puisqu'on est en train de revenir dans ce qu'on a connu à cette époque-là. Donc, tout d'un coup, il y a un grand... Et lui en profite pour rencontrer des Polonais, par exemple, qui lui expliquent que leur pays a été envahi. Et il revient et il fait dans sa propre revue, qui est officiellement une revue fasciste, mais en fait dans laquelle il n'écrit aucun mot d'ordre du fascisme, et dans laquelle il écrit des choses extrêmement complexes sur la théorie de la littérature, la pensée de la poésie, etc. Et qui, au fond, quand on les lit bien, sont très subversives, mais qui ne sont pas une attaque subversive, mais qui vient, donc il vient par l'intelligence à l'antifascisme, à mon sens. Mmh. Voilà. Et c'est une révolte aussi contre la société bourgeoise, plus que contre le père, c'est contre la société bourgeoise qui a montré sa piste, disons, à partir de Théorème, puisqu'avant il a montré plutôt des sous-prolétaires dans ses films ou dans ses romans, et puis avec Théorème, il décrit la classe bourgeoise très étrangement. En mai 68, il a l'idée de, au lieu de continuer la révolution qu'il avait commencée bien avant les autres,
et au lieu de filmer les humble.
Oui, voilà. Tout, à qui qu'il a fait pendant des années et des années, tout d'un coup, il filme la société bourgeoise jusqu'à Salo. Salo, les 120 journées de Sodome, c'est aussi des gens qui sont devant leur tasse de thé. Et donc, il y a quelque chose dans l'ordre du quotidien de la différence de classe ou de la lutte de classe ou des rapports de classe, plus exactement, si on veut parler marxisme. Marxiste, comme un marxiste.
Alors, en très peu de temps, Hervé Joubert-Laurencin, quelles leçons tirez-vous de l'œuvre de Pasolini, dont l'actualité, on l'entend bien, semble tellement brûlante?
Très. Ben, on pourrait prendre l'Italie. Giorgia Meloni, qui est au pouvoir depuis 3 ans maintenant, voire 4. Est-ce que c'est du néofascisme? Est-ce qu'elle vient du néofascisme? Est-ce que c'est du néofascisme, du post-fascisme, pas fasciste, comme elle le prétend? Mais en fait, c'est très soft. Mais ce qui se fait de façon soft et qui produit des choses terribles, c'est lutter contre le principe antifasciste italien. Puisque, au fond, on a cette fameuse constitution de l'Italie qui dit que la constitution italienne est fondée sur l'antifascisme. C'est tout de même une chose que l'on connaît tous. Et Giorgia Meloni, tout son travail, c'est d'essayer de contrer ça et d'essayer de faire disparaître l'idée que l'Italie est fondée sur l'antifascisme, puisqu'elle a, elle a viré Mussolini, elle a été libérée et qu'elle s'est fondée là-dessus. Et donc, ce n'est pas une proclamation permanente du fascisme, mais c'est une proclamation, une interdiction permanente de l'antifascisme. Voilà. Ce qui est quand même très, 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 très grave. Et très, très grave en Italie. Voilà. Moi, j'ai un film en chantier qui fait un documentaire sur Rome et où on sent ça. Il ne se passe rien, mais en même temps, il y a cette interdiction de penser que la société pourrait être fondée sur l'antifascisme ou que c'est le seul humanisme possible, au fond, pour des Italiens qui ont vécu 20 ans, le ventennio nero, comme disent les Italiens, hein, les 20 ans noirs. Quand quelqu'un comme Pasolini en est sorti, bah, lui aussi, Pasolini, au fond, toute sa vie et toute son œuvre est comme la constitution italienne, fondée sur l'antifascisme. C'est une vie qui se fonde sur l'antifascisme. Voilà. Et c'est ça qui est remis en cause, donc de façon extrêmement profonde par le régime Meloni, Tajani, et voilà, les trois parties d'extrême droite néofasciste. Voilà, au fond, puis peut-être autre chose. Mmh. En gros, il était écologiste, Pasolini. Mmh. Au fond, à plein d'endroits, il est écologiste avant l'heure, sans être dans un parti ou dans une association écologiste. Il l'est profondément. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ces jours-ci même, nous avons Donald Trump qui lutte contre la possibilité de ne plus exploiter le monde par le pétrole, etc. Donc on retrouve le pétrole, qui était quand même visionnaire, d'appeler un roman pétrole en 1973, parce qu'on en est toujours là. Donc on se rend compte actuellement, on est presque dans un néo-nazisme aujourd'hui, dans une dystopie à la Philip K. Dick, hein, l'Amérique est devenue néo-nazie. Je crois que c'est exactement ce qui se passe absolument ces jours-ci. Bon, et là, on voit bien que sur l'écologie, quelqu'un comme Trump va dire très explicitement désormais qu'il faut lutter contre. Voilà. Et donc, l'antifascisme, au fond, c'est ça aussi. Le fascisme, c'est aussi de couper toute possibilité de sauver la planète.
C'est sur ces mots que nous allons clore cette émission. Hervé Joubert-Laurencin, je vous remercie et je renvoie à votre magnifique ouvrage aux éditions Macula, Le Grand Champ, Pasolini, poète et cinéaste.
Merci.
Je remercie sur France Culture Philippe Baudouin, Mineta Diawara et Claire Poinsignon. Je vous renvoie au site de l'Union Rationaliste et puisque nous avons parlé écologie, aux deux derniers numéros de Raison Présente consacrés à l'écologie. L'écologie, question politique, question sociale et le dernier numéro, le numéro 235, consacré à une réflexion sur l'eau et ses mythes et sa réalité. Je vous dis au mois prochain.